Pour qui désire flâner dans le temps, à la fois dans le passé et dans le présent, il suffit de se rendre en Colombie, pays de contrastes et de contradictions où l'anachronisme est roi. Eh bien, nous allons tenter d'évoquer par des documents sonores enregistrés sur place les aspects si divers de ce pays, aspects culturels, ethniques, folkloriques et musicaux.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Chardot.
Une page d'histoire mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies chaque dimanche à 15h sur France Culture. Voici Jukebox. Aujourd'hui, l'histoire d'une réappropriation culturelle, celle des Noirs de Colombie. La Colombie, davantage connue pour les violences de ses guérilleros, de ses narcotrafiquants et son goût de la salsa qui, on le sait moins, héberge la deuxième communauté noire d'Amérique du Sud après le Brésil. 10 millions d'habitants, soit un cinquième de sa population totale. Jadis, les esclaves convoyés d'Afrique pour travailler dans ces mines d'or et ces plantations de canne à sucre y avaient développé leur blues à eux, mélancolique ou combatif, qui avait par la suite façonné nombre de genres musicaux locaux, la cumbia, le vallenato, mais aussi plus récemment, via l'arrivée par la mer de disques vinyles venus d'Afrique, la champeta des ghettos, des tambours funéraires aux picos, les sound systems modernes, voyage aujourd'hui en Colombie, l'autre creuset afro-américain. Ce dimanche après-midi, ils sont une vingtaine dispersés dans le clair-obscur du Coliseo de Carthagène, un vaste dôme de béton à l'abandon situé au bout d'un interminable boulevard en déshérence. Sous la voûte à peine éclairée par quelques néons crachotants, des gamins en maillot de corps ou torse nu sautillent et fendent l'air de leur gant de boxe. La chaleur est étouffante, à peine atténuée par la proximité de la mer des Caraïbes. De par deux, ou s'acharnant seul contre de vieux punching balls rafistolés, on n'entend que le bruit mat de leurs gants, leur souffle et les crissements de leurs baskets sur le ciment. Dans un coin, un groupe de filles les observe. Derrière elles, sur un poteau, a été punaisée une photo jaunie, celle d'un autre noir jeune et souriant, Antonio Cervantes, dit « Kid Pambélé ». Pambélé, pour ces jeunes, c'est un peu un demi-dieu. Venu d'une famille modeste de San Basilio, bastion des anciens esclaves auto-libérés, Pambélé, 20 ans plus tôt, s'était élevé à la force de la volonté, commençant par vendre des cigarettes de contrebande jusqu'au jour où il avait découvert la boxe en amateur, puis rejoignant l'élite. Il avait bien un jour été sanctionné pour avoir parié sur sa propre défaite, mais en octobre 72, il avait braqué les projecteurs du monde entier sur lui. À Panama City, il avait envoyé au tapis un certain Alfonso Peppermint Fraser, devenant par là même champion du monde des poids légers. Pambélé était surtout devenu le premier afro-colombien à attirer l'attention du monde sur cette communauté méconnue. Pour ces gamins de la banlieue de Carthagène, Kid Pambélé, c'est un des rares exemples de réussite, l'espoir qu'à force d'abnégation, on peut arriver à ses fins, même quand on est noir. Alors ce jour-là, dans la pénombre de son hangar de Carthagène, parmi le béton fissuré, les papiers gras et les néons incertains, tandis que d'autres gosses des ghettos voisins sont en train de faire la bringue, de se draguer, de danser la champeta en sifflant du rhum, eux, sus, sang et eau, déterminés à ne pas devenir des esclaves du monde moderne. Esclavo Moderno, l'esclave moderne, par le groupe Manuel Alvarez y sus Dangers, 1979. L'histoire avait donc débuté là, à Carthagène, tout au nord de l'Amérique du Sud, à quelques centaines de kilomètres de l'isthme de Panama. Nous sommes en 1533 et dans cette vaste baie infestée de requins donnant sur la mer des Caraïbes, une ville avait été créée par les conquistadors espagnols sous le nom de Cartagena de Indias. Première ville fondée par les colons dans la région, c'est surtout un port qui devient rapidement la plaque tournante sud-américaine du commerce triangulaire. Y transitent la plupart des esclaves qui seront ensuite envoyés aux quatre coins des Caraïbes. Wolof, Bantou, Yoruba, Manding, Fanti, Ashanti. Les 600 000 esclaves qui restent sur place sont acheminés pour travailler de force dans les plantations ou les mines d'or et d'argent du royaume de la Nouvelle-Grenade bâti par les colons. À peine débarqués d'une traversée exténuante, ils sont d'abord conduits à la Feria de Negros, à l'entrée de la vieille ville. Ils y sont vendus aux enchères, puis marqués au fer rouge. Sur leur poitrine, y est apposé le sceau royal, attestant du paiement de l'impôt les concernant. Sur le dos, le sceau de la compagnie qui les exploite. Révolté par les conditions de travail de ce bétail humain, un jésuite obtient du gouverneur que ses esclaves puissent ne pas travailler les dimanches et jours fériés. Mais ça ne suffit pas et bientôt, les révoltes d'esclaves se multiplient. Lors de l'une des plus importantes, en 1529, une ville est détruite. Quelques milliers d'esclaves parviennent à prendre la fuite. Ces marrons, ou cimarrones comme on les appelle, quittent Carthagène et se réfugient alors à l'intérieur des terres, dans les marécages, la jungle ou les montagnes, se regroupant au sein de dizaines de villages fortifiés qu'on appelle bientôt des palenques. Commandé par un certain Benkos Biro, un ancien monarque d'une tribu ouest africaine, une centaine d'entre eux fondent le palenque de San Basilio, qui deviendra le plus important des centres de résistance. Pendant plusieurs siècles, ses habitants y vivent en autarcie, cultivent le maïs ou le manioc, entretenant parfois des relations avec les Indiens voisins, mais maintenant à distance les Espagnols, grâce à leur redoutable talent de guerrier. Lassé de ces combats et des pertes qui en découlent, la couronne d'Espagne accorde d'ailleurs en 1713 à San Basilio un statut d'autonomie faisant de ce village la première nation de Noirs libres du Nouveau Monde. À l'abri de l'oppression coloniale, les palanqueros y forgent une nouvelle langue, le palanquera, un créole mélange d'espagnol, de portugais et de langues bantoues comme le kimbundu ou le kikongo. Ils y développent aussi leur propre culture musicale, faite de nombreux chants comme les bulrengues, entonnés par les femmes pendant qu'elles lavent leur linge dans le fleuve sur des rythmes de tambour. Mais le ciment musical de ces villages repose sur les lumbalous, ces chants funéraires transmis oralement de mère en fille, censés accompagner l'âme du défunt dans le royaume des morts. Les 9 jours suivant le décès, on veille le défunt dans sa maison. Le soir, le village se regroupe devant le cercueil ouvert, éclairé à la bougie, buvant du ñeque, du rhum local, racontant des histoires salaces à propos du mort, avant que ne s'élèvent les chants du Lumbalu, une soliste évoquant notamment la région d'origine de nombre de ses habitants, Luongo en Angola, tandis que les hommes l'accompagnent en battant des mains ou des tambours. Thank you. Las Alegres Ambulancias, les joyeuses ambulances, un groupe de pleureuses fondé il y a 3 siècles au palenque de San Basilio et qui, comme dans cet enregistrement de 1999, perpétue aujourd'hui encore l'art des lumbalous, ces chants funéraires interprétés en langue kikongo. Les siècles passent, mais en Colombie, devenue indépendante en 1810 grâce à Simon Bolivar, l'esclavage s'éternise jusqu'en 1851. Les descendants des esclaves africains travaillent ensuite dans les plantations ou les mines qui les employaient jusqu'alors. Les palenques, ces villages coupés du monde, continuent, eux, à vivre dans l'isolement total. La bascule intervient dans les années 1920, lorsqu'un entrepreneur colombien signe avec des investisseurs nord-américains un contrat pour fonder une raffinerie sucrière près de San Basilio, la Central Colombia. Pour superviser la production, on fait appel à des ingénieurs cubains, experts dans la science de la canne à sucre. Logiquement, ces Cubains, pendant leur temps libre, jouent la musique alors en vogue sur leur île, le son. Musique dont les ouvriers noirs colombiens s'entichent, créant dans les années 20 et 30, dans les deux quartiers du village, deux groupes mêlant leurs tambours bantous aux instruments caribéens. Les claves, ces deux petits bâtons de bois frappés l'un contre l'autre, les bongos, les maracas ou la marimbula, cette caisse de résonance en bois renfermant des lamelles métalliques proches de la senza africaine. Ces deux groupes jouent pour les enterrements, s'affrontent lors de duels musicaux jusque dans les années 50, date à laquelle la raffinerie sucrière ferme et les Cubains repartent chez eux. Des musiciens locaux fondent alors un autre groupe qui prolonge aujourd'hui encore cet héritage, le Sexteto Tabala, qui compose nombre de titres comme ce « La vida es muy bonita, pero al fin siempre se acaba ». Autrement dit, la vie est très belle, mais elle se termine toujours.
Okay.
Le Sexteto Tabala, groupe fondé dans le palenque de San Basilio dans les années 50, enregistré ici en 1996.
Il est 10 heures. Les mouches piquent les viandes et les graisses d'un étal. 50 enfants ont la dysenterie. Un homme soigne un cheval boiteux. Laura a lavé comme chaque jour le même linge. Il y a 3 eucalyptus dans le jardinet. Ces familles, d'origine paysanne, s'efforcent de reconstituer ainsi l'univers des champs d'où elles viennent, avec un jardinet, quelques poules, quelques colombes. Elles sont venues ici non seulement parce que la terre ne les nourrissait pas, mais au moment où la violence politique fait couler le sang. Dans la peur, elles se groupent et se serrent à la périphérie des villes. Ce fut vrai de 1948 à 1951.
Comme l'illustre ce reportage de l'ORTF à Bogota, au milieu du XXe siècle, poussé par les difficultés économiques, mais aussi par les violences qui agitent alors les mouvements de gauche, voyant se former des milices paysannes d'autodéfense dans une période qui fera des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, les palenqueros, les habitants des palenques, migrent. Ils partent chercher du travail ailleurs, descendent vers le sud, le long du fleuve Magdalena ou vers les grandes villes plus au nord, Carthagène ou Barranquilla. Ils y rencontrent souvent le mépris de leurs nouveaux voisins, mais ils ont emporté avec eux la tradition afro-cubaine des sextetos. Barranquilla, qui constitue alors l'autre grande ville des Afro-Colombiens. Située sur la rive du fleuve Magdalena, le plus long de Colombie, c'est l'autre grand port de la région avec Carthagène. Surnommée la Porte d'Or de la Colombie, c'est par lui que la modernité avait irrigué le pays, que les premières lignes téléphoniques avaient été installées à la fin du 19e. Le jazz y avait fait son apparition dans les années 1920, d'abord boudé par les élites, avant de s'y diffuser. La première radio commerciale y avait également ouvert dès 1929. À Barranquilla, la musique fait partie intégrante du paysage, notamment lors du carnaval de la ville, organisé chaque hiver pendant une semaine. Apparu au 19e siècle, c'était au début un jour férié pour les esclaves. Par la suite, institutionnalisé, il combine des cérémonies païennes, des croyances catholiques, mélange des traditions, des danses, des musiques européennes, africaines ou indiennes. Ces célébrations englobent des dizaines de villages alentours. Le carnaval de Barranquilla, qui constituerait aujourd'hui le deuxième plus important carnaval au monde derrière celui de Rio, voit donc résonner la rumba colombienne, le son cubain, la cumbia, la salsa, le poro et d'autres rythmes de la région. C'est de Barranquilla que, quelques décennies plus tard, viendra le renouveau de la musique afro-colombienne, même si d'autres carnavals irriguent également le pays, comme plus au sud à Popayane, nouvelle archive de la radio française 1954.
La Colombie est aussi une terre de tradition, où les fêtes, selon l'endroit où vous vous trouvez, ont le pittoresque et l'exotisme des mœurs locales. L'une des plus curieuses d'entre elles, qui a lieu la veille du jour des rois à Popayane, petite ville universitaire mais grand centre culturel, et la fête des négritos, c'est-à-dire des petits nègres. Au cours de diverses manifestations d'allégresse, tout le monde, sans distinction de classe, se barbouille le visage de noir. Le jeu consiste donc à charbonner, ou du moins à essayer de le faire, les joues, le nez, le front, de tous ceux qui vous tombent sous la main et qui se laissent attraper. Avant l'abolition de l'esclavage, l'esclave se réservait ainsi exceptionnellement le droit, pendant une soirée, de noircir l'épiderme de son maître, le ramenant provisoirement à son rang à lui, au contraire de notre tradition de la galette des rois, donnant à chacun la chance de se hisser pour 24 heures à un rang royal. En tout cas, à Popayane, le 5 janvier, dès l'après-midi, la fête commence dans une grande allégresse, et tous de se noircir au sens propre et au sens figuré. Voici quelques échos de cette liesse pittoresque. Je me trouve dans la rue principale de Popayane, devant l'entrée du club le plus important de la ville. En Colombie, le club représente le centre et l'aboutissement de toute vie sociale. La foule est dense et bigarrée, les jeunes constituent la partie active de la fête, les autres sont plutôt des spectateurs. On se lance des confettis, des serpents.
Juan, oye, oye, la cumbia te está llamando. Juan, oye, la cumbia te está llamando. Juan, oye, la cumbia te está llamando. Prepárate tu camisa, tu pañuelo, rabo y gallo. Prepárate tu camisa, tu pañuelo, rabo y gallo. Y vente a bailar la cumbia, que el ron ya se está acabando. Y vente a bailar la cumbia, que el ron ya se está acabando. Con alegría, aprieta bien tu morena hasta que despierte el día. Aprieta bien tu morena hasta que despierte el día.
La cumbia está llamando, l'appel de la cumbia, par Gaston El Isleño, Gaston l'insulaire, enregistré en 1962. La cumbia constitue alors la musique colombienne par excellence. Nés le long du fleuve Magdalena, ce sont là encore les esclaves africains qui en sont à l'origine. Eux qui avaient fusionné leurs tambours aux influences espagnoles et amérindiennes pour donner naissance à une musique de danse sur laquelle ces réprouvés draguaient les femmes de manière suggestive. La musique commence alors à circuler plus rapidement en Colombie, grâce à la radio naissante, mais aussi à la création des premières maisons de disques colombiennes. Il y a d'abord Disco Fuentes, fondé en 1934 à Cartagène, puis Discos Tropical, créé en 1949 à Barranquilla. Les disques, fabriqués aux États-Unis, sont ensuite diffusés auprès des stations de radio nationales ou vendus aux cantinas, les restaurants de campagne qui disposent souvent des premiers phonographes. Les Noirs de Colombie qui façonnent également l'un des autres genres musicaux majeurs, le vallenato. Né il y a longtemps sur la côte caribéenne, cette musique célèbre la rencontre des percussions africaines, de la guitare espagnole, de la guacharaca, cette tige d'arbre à palme qu'on frotte avec un bâton à un instrument d'origine indienne. À la fin du 19e, l'accordéon avait ensuite remplacé la guitare. On ne sait pas exactement comment cet instrument avait fait son chemin jusqu'en Colombie. Est-ce grâce à un pirate anglais, à un bagnard évadé de Cayenne ou à un chargement de contrebande détourné? Toujours est-il que l'accordéon, d'abord réservé au seul milieu populaire, avait fini par pénétrer toutes les classes de la société. Le valetano, quant à lui, s'était mis à raconter la société et chaque événement engendrant sa chanson. Les hommes politiques en comprennent rapidement l'intérêt dans le rapport direct qu'il offre avec les classes populaires. Ainsi, en 1976, le président Alfonso López Michelsen avait été élu sur un air d'accordéon. Quelques années plus tôt, il avait participé à la création du premier festival de Vallenato qui, depuis, a lieu tous les ans, à la fin du mois d'avril, à Valle d'Upar, dans le nord du pays, au pied de la Sierra Nevada. Ce festival était rapidement devenu l'un des événements majeurs du pays. Pour sa première édition, y avait été sacré le roi de l'accordéon, un certain Alejandro Duran, un ancien ouvrier agricole converti tardivement à la musique, qui avait enregistré son premier disque en 1950, avant de devenir une légende. France Culture, Jukebox, aujourd'hui, être noir en Colombie.
Oigan, los bailadores, ¿cuántos tienen ustedes ahí para que me manden un trago? Que estoy pasmao. En Cartagena y toro bravo en Montería, es el once en Cartagena y toro bravo en Montería. Oiga, compadre Aniceto, deme ahí el trago, saque la botella, no le esconda. Pasa el 20 de enero, ahí vamos a gozar la vida.
Alejandro Duran pour cette cumbia costeña, la cumbia de la côte, 1969. C'est d'ailleurs de la côte, ou plutôt du large, qu'allait venir, les années suivantes, la révolution musicale. Dans les années 70, en effet, des marins de passage dans le port de Carthagène se mettent à importer des vinyles de musiques africaines. Au début d'ailleurs, ces disques viennent surtout d'Haïti ou des Antilles françaises. Mais en quelques années, des collectionneurs de musique s'arrachent désormais les succès du Nigeria, du Congo, de Papa Wemba ou de Fela Kuti. Dans les ghettos des grandes villes afro-colombiennes, Carthagène notamment, ces disques de soukous, de rumba, de high life ou d'afrobeat se diffusent et rencontrent immédiatement un écho formidable auprès des afro-colombiens en mal de repères identitaires. Ces disques sont joués dans l'espace public via ce qu'on appellerait en Jamaïque des sound systems, ces discothèques de plein air où des enceintes géantes posées à même le trottoir attirent à elles des foules dansantes. En Colombie, on les surnomme picos, diminutif de pick-up, non pas la voiture, mais justement le lecteur de disques. Les picos, soigneusement décorés de peintures aux couleurs bariolées, enflamment la jeunesse noire des grandes villes. Les disques arrivent par cargaison entière grâce aux marins de passage. Mais comme ces disques sont rares, ils s'échangent à prix d'or. Les DJs en masquent alors jalousement les étiquettes, histoire de pouvoir en conserver le secret et l'exclusivité. La musique devient une denrée précieuse tant elle attire les convoitises. C'est alors que certains artistes locaux décident d'imiter ces rythmes africains. Ainsi naît la champeta, fusion des Afro-Colombiens, qui inaugure en 1975 un certain Ouganda Kenya, venu de Medellín. Banda Kenya, El Caterete, 1975.
Il y a une phrase à Cartagène qui dit que quand la musique est bonne, il faut qu'il y ait une bagarre qui se produise. Quoi. Tout le monde voyait la champeta comme quelque chose de très mauvais. Quoi. Donc les politiciens de Cartagène, qui sont tous des blancs métis, ils disent que les gens du peuple exagèrent, qu'ils écoutent la musique trop fort, que c'est pas normal. Ils écoutent la musique à fond. Un vrai sound system, c'est parce que tu te mets devant le haut-parleur et ça te secoue le corps, vraiment ça. Donc on dit que le sound system, il faisait éclater les ampoules, il cassait les vitres. Au début, c'était vu comme quelque chose de diabolique. Et les sound systems ont été interdits Il y a un article dans le journal de Carthagène qui disait que le sound system réveillait les abeilles qui étaient dans leur panal, dans leur ruche. Là. Donc ça faisait que les abeilles africaines se mettaient à attaquer les gens.
Lucas Silva, musicologue, DJ et fondateur du label Palenque Records, interrogé à Bogota par Elodie Maillot sur France Inter. L'engouement pour cette nouvelle musique, cette fusion latino-américaine allant croissant, certains producteurs avaient décidé d'en profiter. Un soir de 1975 à Barranquilla, un avocat fiscaliste souhaite organiser une soirée d'entreprise. Il s'appelle Rafael Machuca. Pour cela, il fait appel à un ami connaisseur de musique afin de lui ramener des groupes locaux. Ce dernier va traîner du côté de la Plaza de los Músicos près de la Calle 72, le lieu vibrant de la musique nocturne de Barranquilla. Lors de la soirée, Machuca est soufflé par ce qu'il entend, par l'énergie musicale déployée par ses groupes. Alors, du jour au lendemain, il quitte son poste dans l'administration fiscale et décide de monter son propre label de musique qui deviendra Discos Machuca. Pendant 6 ans, Rafael Machuca consacrera sa vie à dénicher de nouveaux groupes afin de promouvoir des titres expérimentaux, de kumba, de champeta, de funk, des titres afro-psychédéliques, underground ou hypnotiques, comme ce Ayu du groupe Rio Latino.
Dime lo facho, en esta vile el hilo te fallo, las que a mi pana mi solí, yo mal ayú a ti pa' ti, dime lo facho, hice yo la cabita y a ti pa' a mal ayú, quisiera tiro de este lado, que yo ayú, a mal ayú, y a ti pa' que no la ve. Cuati me lo pata, en este a mi le y lo que pati, las que a mi pana mi solita, tu mala yo a ti pati, cuati me lo pata, hice yo la cabi y que la pati, y a ti pati, o mala yo, y te da ti tu destelar, que tu ayú, a mala yo, y a ti pati que no la ve.
Río, río, río. Latino. Latino.
Cuati me lo facha, en el chambile ni lo que pa, las que a mi pana ni solita, yo mala yo a ti pa ti, cuati me lo facha, hice yo la javi pique, y a ti pa ti, a mala yo, quisí da ti yo de estelar, que tú a yo, a mala yo, y a ti pa ti que no la ve. Cuati me lo pata, en esta mileni lo que pati, las que a mi pana mi solita, tu mala yo a ti pati, cuati me lo pata, hice yo la cabitiquena, y a ti pati, a mala yo, vestida tiro de estelar, que yo a tu, a mala yo, y a ti pati que no la ve.
Le groupe Rio Latino pour ce Ayu, initialement paru sur le label Colombian, réédité ce mois d'octobre 2020 par Analog Africa qui, sur sa compilation La Locura de Machuca, réunit 17 titres sortis par le label entre 1975 et 1980. Ces années 70 sont celles d'une incroyable profusion. Chaque soir, des bandes d'adolescents se retrouvent désormais dans les rues de Carthagène, aimantées aux picos, aux sound system, dans des vapeurs d'alcool, de drogue et des bagarres. Discos Machuca, le label de Rafael Machuca, tout en gagnant de l'argent en publiant les succès populaires des légendes telles que Alejandro Duran ou Aníbal Velázquez, réinvestit ses bénéfices pour promouvoir des artistes inconnus comme Conjunto Barbacoa, mais aussi Abelardo Carbono. Né en 1948 près de Barranquilla, Carbono était d'abord devenu policier de la ville avant de se tourner vers la musique, où son style de guitare, proche de la rumba congolaise, avait fait le bonheur des danseurs. Il avait développé dans les années 70 et 80 une musique dansante, afro-psychédélique, comme dans ce Quiero a mi gente, Je veux mon peuple.
Son juntante, son junta guarayú, son en guaintía, son en pintaintía, son junta tayanaitas, son junta tayanaitas. Son juntantas, son juntante, son junta guarayú, son en guaintía, son en pintaintía, son junta tayanaitas, tayanaitas, tayanaitas. Son justante, son justa guarayú, son en guantía, son en taintía, son justa yanaitas, son justa yanaitas.
Quiero a mi gente, Abelardo Carbono, dont la carrière s'arrête pourtant rapidement, tandis que la musique qu'il a participé à engendrer prend son essor. La champeta, dont le nom même raconte ses mauvaises manières. La champeta, c'est en effet le nom d'un couteau de pêcheur, une lame de machette raccourcie avec laquelle se battent souvent les gangs de délinquants, notamment lors des picos.
Les sound systems sont devenus très puissants, ils ont commencé à produire de la musique. Ils ont fait des labels et ils ont commencé à produire des versions de musique africaine ou guadeloupéenne ou haïtienne. La plupart c'est des reprises de morceaux ivoiriens, de morceaux camerounais, de morceaux de plein de sources différentes, quoi. Et c'est comme ça que la champeta a commencé à émerger, à naître. C'est donc une musique afro-colombienne née à partir de l'influence de la musique africaine. Mais ça change énormément tout le temps. Comme se produit par les gens eux-mêmes. Par exemple, il y a un vendeur qui vend des fruits dans la rue comme ça. Il va voir un producteur, il lui chante un morceau a cappella. Si le producteur il aime bien le morceau, il le produit. Il sort le morceau. Et c'est le vendeur de fruits qui est devenu chanteur de la mode.
We'll be right back.
Grande ville afro-colombienne, le groupe Julia Nisu Combo pour ce Enyere Kumbara, enregistré en 1975. Dans les années 70, les routes permettant de désenclaver les vieux palenques, ces villages de descendants d'anciens esclaves, on prend soudainement conscience que la culture des afro-colombiens, d'une tradition de paria, est soudain devenue à la mode.
Tio, guachupecito. Siéntese, siéntese, siéntese.
Aujourd'hui, la salsa reste la reine qui résonne partout, dans les bars, les épiceries, les taxis ou les bars à Rome. Mais la champeta, ce swing des ghettos, irrigue les quartiers populaires de Carthagène ou les plages de la ville, où des centaines d'adolescents se déhanchent lascivement les dimanches après-midi sur ces textes ultra-réalistes, souvent hyper-sexualisés, vulgaires, exhibitionnistes. À la fin des années 90, le phénomène de la champeta avait pris tellement d'ampleur que la mairie de la ville avait songé à l'interdire pour incitation à la violence avant de se rétracter face au tollé soulevé. Depuis, la champeta a gagné les milieux plus aisés. À Barranquilla, on trouve encore plus de 200 picos installés partout, dans les bars, les salles de billard, les restaurants, à chaque coin de rue, et leur nombre explose encore à chaque carnaval. La champeta génère désormais beaucoup d'argent, mais ces artistes rechignent à s'engager dans le combat politique. Car cette fierté musicale ne suffit pas à cacher la misère du sort collectif des Noirs de Colombie. À Carthagène, Barranquilla, mais surtout à Cali, peu d'Afro-Colombiens parviennent à des positions élevées. Beaucoup travaillent dans l'économie informelle et le chômage les frappe plus que les autres. Quant aux palenques, ces villages d'anciens esclaves, s'ils s'enorgueillissent de ce prestige culturel, des icônes locales comme Kid Pambélé ou des grands musiciens venus de chez eux, ils ont du mal à résister à l'homogénéisation de la société colombienne. Ils affrontent l'effritement de leur culture, les habitants n'y parlent plus guère la langue palanquera. Dans les années 90, face à leur rapport à la vie culturelle colombienne, le pouvoir de Bogota avait pourtant décidé de promouvoir les Noirs de Colombie. Une loi avait été votée reconnaissant le caractère multiethnique de la nation, visant à rendre ces Noirs propriétaires de leurs terres. À San Basilio, les palanqueros avaient déposé une demande pour acquérir 7000 hectares de terrain, mais des conflits territoriaux, notamment avec les Indiens ou des grandes entreprises agroalimentaires, avaient freiné cette ambition. Maigre consolation, en 2008, le palenque de San Basilio a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité.
Ese macro que le gusta. quieto que pare que sea. No genera violencia, mejor camina y menea. Fiera, el micrófono listo para sonar. Agárrense duro que mi crew empiezo a nombrar. Total, número uno de esta nación. Mera acción, Waxalton, que ya voy listo pa' misión. Ey, pónganse la pila, comiencen a hacer fila. La introducción la dejo a cargo del maestro Atila Esquila. Double G, la Angie en pila. Slow, motherfucking my antimas de la Sequitila. Somos los mismos prietos, aguerridos. Por el choco parido, colombianos con mucho estilo. En donde quiera yo le pruebo mijo. Con chirimía raga, ya está nadando en el río Nilo. Me and my crew showing to the world wide. Don't forget it, homie, this is from Pacific side.
Este macro que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Este macro que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta.
Give me some big beach, please, ahora estoy aquí. No me represent free. No me mires así como en un concert, tratando de hacer regales, performing o viendo videos, making some deli in the corner. Así en la calle Gia, de mucho casa Gia. El que no puede allí tendrá que morirse algún día. Pisando duro, heavyweight style. Toma, stay on shock. O mejor estado de coma romántica. Assassin living in the fantasy, small shy. No more TV's, time to sleep. Ahora pon mejor tu cabeza en la almohada. DJ, dame una pista pa' mejorar la tonada y lala, lala. Si me coge con esa me saca. Mejor le pega al general con el pata pata. A orilla de leones se ha convertido de rata. Dame un pipa que ese play ya no me mata.
Ese macro que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta.
C'est sur ce titre du groupe Chuck Keep Town, un groupe de hip-hop afro-colombien, que se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui, Colombie, l'autre creuset afro-américain. Une émission préparée avec Lily Cornert, Antoine Villos de la discothèque et Sophie Enoch Alina. À écouter les compilations du label Analog Africa consacrées à cette scène, Diablos del Ritmo, The Colombian Melting Pot, mais aussi donc la Locura des Machuca 1975-1980 qui vient de paraître. Merci au passage à Mathieu Giraud pour son aide. Jukebox, se réécouter, se télécharge depuis l'application de Radio France, mais aussi le site de France Culture où vous retrouvez les références des morceaux et des archives diffusées et la possibilité de nous écrire. À la technique aujourd'hui, c'était Dofar Guéride, à la réalisation Agnès Catou, au micro à Maurice Chardot. À dimanche, 15h, pour un prochain Jukebox.
C'est ma coupe, elle est costa, à tout le monde.